VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. L'ancien général Michael Flynn a démissionné de son poste de conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump. Michael Flynn était connu pour son indulgence avec la Russie et sa ligne dure face à l'extrémisme islamique. Âgé de 58 ans, l'ancien directeur du renseignement militaire américain était l'une des rares figures du sérail de la défense américaine à avoir soutenu Donald Trump pendant sa campagne électorale. Mais il était sur la sellette depuis la publication vendredi par le Washington Post et le New York Times de la teneur de ses conversations avec l'ambassadeur de Russie à Washington, Sergei Kislyak. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le départ de Flynn, moins d'un mois après l'investiture de Donald Trump, constitue un remaniement plutôt extraordinaire de la principale équipe de conseillers du président. Michael Flynn a été un partisan loyal de M. Trump pendant toute la campagne électorale, mais ses liens avec la Russie ont toujours suscité des soucis auprès des autres proches collaborateurs du président. Il avait d'abord dit aux conseillers de M. Trump qu'il n'avait pas discuté de sanctions avec l'ambassadeur russe pendant la transition. Se fondant sur ses assurances, le vice-président Mike Pence a défendu publiquement cette déclaration de Michael Flynn. Ce dernier devait dire bien plus tard aux officiels de la Maison-Blanche qu'il pouvait avoir discuté de sanctions avec l'ambassadeur. Dans sa lettre de démission, Flynn a expliqué que le cours frénétique des événements l'a amené à donner par inadvertance des informations incomplètes au vice-président sur ses contacts avec les Russes. Le général Keith Kellogg va assurer l'intérim au Conseil national de sécurité. Selon deux sources au courant de la situation, le département de la justice avait mis en garde l'administration contre les contacts de Michael Flynn avec la Russie et de possibles risques de chantage dans cette affaire compte tenu de ce que le ministère savait à ce sujet et qui contredisait les déclarations publiques.
Réaction en Russie à la démission de Michael Flynn, c'est une affaire intérieure américaine, une affaire intérieure de l'administration du président Trump, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Nous ne souhaitons commenter cette affaire d'aucune manière, a-t-il souligné. Mais selon l'AFP, l'élite politique russe qualifie cette démission de coup dur porté aux relations russo-américaines. C'est un signal négatif pour le rétablissement du dialogue russo-américain au moment où les relations entre Moscou et Washington sont au plus bas depuis la fin de la guerre froide, a affirmé Leonid Slutsky, président de la Commission pour les affaires étrangères à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, cité par l'agence publique d'information russe RIA Novosti. Pour sa part, le chef de la Commission pour les affaires étrangères au Conseil de la Fédération, la Chambre haute russe, Konstantin Kosachev, fait état de pression sur le président américain Donald Trump. Toujours concernant l'actualité américaine, première rencontre entre le président Donald Trump et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Les deux leaders se sont entretenus à la Maison-Blanche, notamment sur le commerce bilatéral et des dossiers brûlants tels que la sécurité et l'immigration. Les relations commerciales entre les deux voisins nord-américains ont dominé leur conférence de presse conjointe à la Maison-Blanche hier. Pour Justin Trudeau, il s'agissait surtout de mettre en exergue ce qu'il appelle le caractère unique des relations américano-canadiennes.
Des millions de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière dépendent de ce partenariat crucial. Entretenir des liens économiques solides est essentiel à notre succès mutuel et nous allons continuer de travailler ensemble au cours des prochaines années pour que les familles canadiennes et américaines puissent continuer à prospérer. C'est une préoccupation pour bien les Canadiens parce qu'on sait à quel point notre économie est extrêmement dépendante des liens que nous avons avec les États-Unis. Les biens et les services qui traversent chaque direction de notre frontière veulent dire des millions de bons emplois pour les Canadiens. Mais des millions d'emplois aux États-Unis, des bons emplois pour la classe moyenne, dépendent aussi de ces bons liens économiques entre nos deux pays.
Le premier ministre canadien Justin Trudeau. Et États-Unis toujours, les services américains de l'immigration ont arrêté ces derniers jours près de 700 immigrés condamnés pour des délits ou des crimes. C'est ce qu'a annoncé lundi le secrétaire américain à la sécurité intérieure, John Kelly. Dans un communiqué, il précise que les faits reprochés aux immigrés interpellés vont de l'homicide à la conduite en état d'ivresse. Rappelons que lors de sa prise de fonction, le président américain Donald Trump avait promis d'expulser de 2 à 3 millions d'immigrés ayant un casier judiciaire.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, la police congolaise a donné l'assaut aujourd'hui au domicile du chef d'une secte séparatiste à Kinshasa. L'intervention des forces de l'ordre a donné lieu à des affrontements avec les partisans du gourou. 8 personnes soupçonnées d'appartenir à la secte sécessionniste Bundu Dia Congo ont été sérieusement blessées lors des heurts avec les forces de sécurité, selon un bilan partiel publié par la police congolaise. L'opération continue à Kinshasa. 22 personnes, dont les 8 blessés graves, ont déjà été interpellées. Plus de détails avec Idrissa Sedoudia.
L'assaut contre la résidence de Ne Mwanda Nsemi, prophète autoproclamé du Bundu Dia Congo, a débuté vers 4h30, soit 3h30 GMT. Nsemi, qui affirme avoir eu une révélation, a fondé le BDK, c'est-à-dire le Bundu Dia Congo, dans les années 1980, avec l'ambition de faire revivre le royaume précolonial du Congo qui couvrait une vaste partie de l'Afrique centrale. Au début du mois, au moins 8 de ses adeptes ont été tués dans des affrontement avec la police à Kimpisse, une ville de la province du Bas-Congo dans le sud-ouest du pays, habituellement épargnée par les violences qui marquent d'autres régions du pays. Des analystes notent que le refus de Joseph Kabila de quitter la présidence à l'expiration de son mandat en décembre dernier a conduit à un regain d'activité de multiples groupes armés.
Au Soudan du Sud, l'armée sud-soudanaise réagissant à la récente démission d'un influent général critique envers le régime, accuse le haut gradé d'avoir fui le pays pour échapper à des poursuites pour malversation. Mais le général Thomas Cirilo Swaka, ex-numéro 2 de la division logistique au sein de l'état-major sud-soudanais, reproche au président Salva Kiir et à la SPLA, l'armée gouvernementale, d'avoir systématiquement torpillé un accord de paix signé en août 2015 pour mettre fin à la guerre civile. C'est ce qu'il souligne dans sa lettre de démission datée du 11 février. Le général, un membre de l'ethnie Bari qui a fui le Soudan du Sud pour une destination inconnue, accuse également le régime du président Salva Kiir de poursuivre l'agenda du Conseil des aînés de l'ethnie Dinka, dont le président Kiir fait partie, à savoir une campagne de nettoyage ethnique et le déplacement forcé de populations. En Côte d'Ivoire, le syndicat de la presse privée exige la libération immédiate et sans condition de 6 journalistes ivoiriens arrêtés pour divulgation de fausses nouvelles, y voyant une atteinte flagrante à la liberté d'expression. Selon le procureur de la République, Richard Adou, l'arrestation de ces journalistes est due au récent mouvement d'humeur des militaires au cours desquels certains organes de presse ont divulgué de fausses informations de nature à inciter les soldats à la révolte, souligne Richard Adou. Guillaume Bateau est le secrétaire général du syndicat de la presse privée en Côte d'Ivoire.
Les pouvoirs publics ne comprennent pas que les journalistes soient vraiment donnés beaucoup de liberté par rapport à la gestion de la question des mutineries. Mais nous pensons qu'il n'appartient pas aux journalistes de cacher la vérité. Bien au contraire, notre métier, c'est de faire éclater la vérité pour que tous les concitoyens, tous nos compatriotes sachent ce qui se passe dans le pays, même si cela concerne l'armée. Parce que ce qu'on nous oppose, c'est que ce sont des questions sensibles liées à la défense nationale. Nous en convenons. Mais nous estimons en même temps que ces questions aussi préoccupent les Ivoiriens qui ont envie de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, et qui ont envie d'être aussi rassurés. Donc, je pense que ce n'est pas plutôt politique, mais c'est la nature même du travail des journalistes qui semble être remise en cause à haut niveau, et cela est un peu déplorable.
Guillaume Bato, secrétaire général du SINAPCI, le syndicat de la presse privée en Côte d'Ivoire. Il était joint à Abidjan. Et puis en Guinée, les enseignants de la fonction publique sont en grève depuis lundi pour des hausses de salaire et la titularisation de vacataires. Le mouvement de grève a été particulièrement bien suivi à Conakry, où de nombreux établissements d'enseignement sont restés fermés. Et pour terminer, agriculture, l'invasion d'une chenille légionnaire vorace venue d'Amérique fait l'objet d'une réunion d'urgence sous les de l'ONU, aujourd'hui à Harare, au Zimbabwe. Objectif, discuter des mesures à prendre contre cette larve qui a endommagé les cultures céréalières de plusieurs pays africains et fait craindre des pénuries alimentaires. La chenille légionnaire d'automne, originaire d'Amérique et récemment introduite en Afrique, a déjà fait des ravages dans les champs de céréales en Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et au Ghana. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.